Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Roule avec moi. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Ici ça va pas trop mal, on est sur le chemin du retour hein, cette semaine qui nous a emmené du côté de Perpignan. On est jeudi, on doit être le 28 je crois. Ouais, on doit être le 28 septembre. Et il est 10h30. Je viens de faire une petite pause. J'étais assez crevé de ces trois jours. J'avais dit en parler dans le dernier épisode où pour la peine pour cette fois-ci, j'avais pas fait comme la dernière fois où j'avais pris l'avion. Là j'ai pris la voiture et là tu sens que les kilomètres commencent à s'accumuler un petit peu sur les trois jours là, quatre jours. Ça commence à tirer un peu. Lundi, ça n'a pas été si compliqué que ça, mais il me tardait d'arriver. La preuve, c'est qu'il a fallu que je fasse une pause d'une vingtaine de minutes, alors qu'il ne me restait même pas une demi-heure à rouler. Mais bon, je roulais sur l'étendue de la journée, ça faisait presque 9h que je conduisais. 9h, j'ai roulé 9h ou 9h30, je crois. Donc c'était un peu usant. La nuit a été relativement facile à se faire. Globalement, je pensais pas arriver aussi crevé. Tout s'est relâché une fois que je suis arrivé à l'hôtel. Puis les deux jours ont été... c'était des interventions relativement courtes. Hein. Le mardi, j'ai passé 4 heures sur une machine. Et le mercredi, donc hier matin, j'y ai passé que 6 heures, entre guillemets. Mais c'était des environnements hostiles, on dira, dans des frigos à 4 degrés. Bizarrement, quand tu rentres dans le frigo, t'as pas la sensation qu'il fasse si froid que ça. Le delta était pas si énorme que ça. L'amplitude thermique, c'était, je crois que c'était 18-19 à l'extérieur et tu rentres à 4. Bon, ça fait 14 degrés, ok, mais est-ce que c'est une question de... d'ambiance, d'humidité qui fait que globalement ça passe plus facilement. Les 4 heures du mardi matin sur la machine où je faisais un simple contrôle sont plutôt bien passées en termes de ressenti. C'est celle d'hier, là, l'intervention d'hier matin de 8h à 14h. Là c'était un peu plus compliqué. C'est surtout que j'ai pu distinguer que selon les industriels, les normes et les conditions d'accès dans leur site de production et dans leur chambre de fabrication et de conditionnement sont vraiment différentes. Autant mardi, c'était globalement simple, hein, j'avais pas besoin d'équipement particulier. Bon, la Charlotte classique. Le cache-barbe classique aussi, j'ai envie de dire, quoique pas pour tout le monde, bizarrement. Et quand tu vois la barbe que je commence à me trimballer, tu te dis, ce serait bien quand même qu'il y ait un petit cache-barbe pour ça. Hein, parce que enfin je te fais pas de dessin, mais quand tu as ne serait-ce qu'un poil ou un insecte dans ton assiette, ça fait relativement cagué. Donc là, t'imagines, tu ouvres le sachet de conditionnement de ton produit et tu tombes là-dessus. C'est pas ouf. Hein. Enfin, moi, ça me plairait pas trop, mais bon, écoute. A priori, il y en a que ça dérange pas. Voilà. Et ouais, mercredi, là, je suis tombé sur une société qui est connue, mais qui n'a pas besoin d'être citée non plus, au même titre que toutes les autres. Là, j'ai eu vraiment, bah, ça va faire un an, un petit peu plus d'un an, 1 an, 3 mois ou quelque chose comme ça que je suis dans ce métier-là. Et c'est la première fois que j'ai vu une telle débauche d'énergie pour vraiment mettre en sécurité leurs produits. Et c'est franchement, c'est plutôt sécurisant. Même si je ne suis pas consommateur de ces produits-là, de leurs produits, c'est plutôt sécurisant, bah, du coup, pour ceux qui le font. C'est de la salade en sachet. Voilà. Maintenant, il y en a pas mal qui le font. Je t'en dis pas plus. Tu n'as pas vraiment besoin d'en savoir plus non plus, de toute façon. Mais globalement, eux sont les plus précautionneux à ce niveau-là. Et je sais même pas si on peut faire plus. J'imagine qu'on peut faire plus. Mais tu sens que chez eux, c'est une réelle préoccupation. Et ben, je suis arrivé. Déjà, tu as des plans de prévention des risques de malades à remplir 2 semaines avant. J'ai passé 1h30 avec des QCM à remplir, à renvoyer. Pour être sûr que j'ai bien compris comment fonctionnait leur site, leur système d'évacuation, leur système de précaution, s'il y avait de la contamination, de la pollution sur leur ligne de production. Vraiment mastoc comme truc. Après, tu arrives, tu vas au poste de garde, tu laisses tes papiers d'identité. Le gars, c'est tout juste s'il ne te fait pas, j'allais dire un toucher rectal, mais c'est tout juste s'il ne prend pas tes empreintes et tout pour que tu puisses rentrer. On t'accompagne directement sur site. D'abord à la maintenance, on revoit bien, on révise bien si tout est au clair pour toi au niveau des consignes de sécurité. On va décontaminer ta caisse à outils, ton sac à dos. Oui, c'est un vieux, c'est pas un vieux réflexe, c'est un réflexe que j'ai pris, c'est comme ça, sac à dalle, paraflotte, voilà. Pourquoi c'est limité à 110 là ? D'accord. Donc décontamination de la caisse à outils, décontamination du sac à dos, décontamination des chaussures de sécurité avant de rentrer dans un sas pour te faire finalement enlever tes chaussures de sécurité et te faire mettre alors une paire de bottes qui va être aseptisée derrière. Mais ça c'est le coup classique. On va te filer le cache-barbe. Sous le cache-barbe, tu mets le masque FFP2. En dessous de la casquette coquée, tu mets... Alors putain, c'est quoi? C'est un filet. Après tu mets une charlotte. Après tu mets ton casque. Et après tu remets une charlotte sur le casque. Une fois que tu as fait tout ça, donc tu peux passer la barrière hygiénique là, où ils te brossent les bottes, les mains, le machin. Tu mets une blouse. Et au-dessus de cette blouse, tu remets une blouse. Alors une blouse en espèce de coton, mais très léger, et au-dessus de ça tu remets une blouse qui ressort de leur service de nettoyage, qui est une blouse épaisse qui pèse 3 kg. Et en dessous, moi à la base, comme je savais que je bossais en frigo, j'avais quand même un t-shirt, le pull et le blouson de frigo de la société. Donc je te dis pas comment c'est pratique pour bouger une fois que tu es emmitouflé dans tout ce truc là et que tu vas te déplacer, que tu vas essayer de te mouvoir dans une machine qui fait 1m50, non c'était 1200, donc qui fait 1m20 de large par 80 cm de haut. Voilà, je te laisse imaginer le tableau. Donc ambiance humide, globalement la température à 4 degrés, bah, tu la sens pas. Et tu ressors de là au bout de 6 heures. Oui, parce que ouais, tu devrais me serrer encore un peu plus toi. Et au bout de 6 heures, je t'explique même pas dans quel état tu sors. Tu es trempé comme c'est pas permis de l'intérieur. tu as la vessie qui va exploser parce que tout le protocole que tu as fait pour rentrer, il faut t'imaginer que quand tu ressors, c'est le même. C'est-à-dire que si tu as besoin d'aller aux toilettes, il faut que tu refasses toute la procédure dans le sens inverse. Tu fais ce que tu as à faire. Il faut que tu recommences encore cette procédure pour rentrer. Donc globalement, déjà, tu perds. Si tu dois sortir une seule fois, tu perds 45 minutes, grosso modo. Donc je suis sorti de là, j'étais rincé. Le boulot a été fait, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais physiquement, c'est celle, peut-être celle qui m'a demandé le moins de taf, parce que c'était juste une visite de diagnostic sur une machine qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Donc globalement, pas de truc particulier à préparer, tu vois, pas de stress sur le fait de réussir ou pas réussir telle ou telle manip. C'était pas le souci. Mais ouais, physiquement compliqué. Le masque, l'atmosphère, la buée sur les lunettes, une fois sur trois, tu vois pas ce que tu fais. C'est des expériences où tu es content de les faire, de les cumuler sur une semaine, parce que si c'était toutes les semaines comme ça, avec une opération différente, un client différent, globalement ce serait peut-être chiant. Donc ça a bien tiré. Donc sorti de là, finalement j'ai pris la route du retour hier après-midi, même si j'aurais dû rouler que à partir d'aujourd'hui, mais il était 14h. À 14h du côté de Perpignan, comment te dire, il n'y a pas 50 millions de trucs à faire. La veille, j'avais fini plus tôt. J'avais fini sur les coups de midi. Ouais, c'est ça. J'avais fini sur les coups de midi. Donc, comme j'étais à une petite vingtaine de minutes du Pertus, je crois que ça s'appelle. Alors, je sais plus s'il faut prononcer les S ou pas maintenant. J'ai gros doute. Donc, je suis monté jusque là-haut, frontière espagnole, histoire de voir s'il y avait moyen de choper du tabac. Donc déjà, j'ai pas trouvé le tabac qu'on prend d'habitude. Donc ça a vite réglé le problème. Je me suis dit, je vais regarder s'il y a du gin. Et l'écart de prix, en fait, justifiait même pas que je m'emmerde à prendre... de toute façon, pour l'Espagne, je me souviens même plus de ce à quoi tu as droit. Je sais pas si c'est comme l'Andorre. Donc en vrai, je me suis même pas emmerdé. J'ai juste mangé un morceau là-haut. Et après, je suis redescendu, je suis allé à l'hôtel faire une petite sieste et puis finir mes rapports et attendre le soir pour aller bouffer jusqu'à l'intervention du lendemain. Donc tout ça pour dire que du côté de Perpignan, une fois que tu as vu le mont Canigou de loin, c'est bon, tu es content. Banyuls, Collioure, tout ça, je les avais fait quand je suis descendu la dernière fois, fin juillet, je crois que c'était. Donc j'ai décidé de reprendre la route et j'ai roulé jusqu'à Marmande. Entre temps, il a fallu que je fasse un arrêt pour reprendre de l'essence à Toulouse et chercher un hôtel. Et je m'étais dit, je sais que sur Bordeaux, les hôtels, ça coûte un bras. Donc je m'étais dit, c'est soit je m'arrête avant Bordeaux, soit je passe Bordeaux. Et je commençais à fatiguer un peu, mine de rien, parce que je suis parti à 14h. Je suis arrivé à l'hôtel, il était... 18h45, presque 19h je crois. Et finalement je me suis arrêté à Marmande. Hôtel tout simple, sans fioritures. La gamme en dessous de celle qu'on prend d'habitude, mais en vrai il y avait quasiment que ça à 80 bornes à la ronde. Soit ils étaient tous pleins dans ceux que je prends d'habitude, ceux qu'on a l'habitude de prendre nous. Soit c'était des prix mais dément. Enfin, sur Bordeaux, t'avais des nuits dans un Mercure à 230 balles. Je fais, les gars, c'est un hôtel. On vous demande juste 4 pieds, un sommier et un matelas de bonne qualité, parce que franchement, on passe la nuit, quoi. Donc voilà, Marmande. Et ce matin, réveillé 4 heures. C'était... Alors hier soir, pareil, je suis tombé, mais comme une fraise. Bien mûr. Ce matin, réveil 4 heures, pas moyen de se rendormir. Le petit déj pas avant 6h30. Donc, à regarder un peu les actus sur le téléphone, sur les abonnements presse. La découverte d'un nouveau 49.3 qui a été enclenché. Même si déjà hier, j'en avais eu plus ou moins vent. J'avais lu un article de Mediapart, je crois, qui expliquait pourquoi ils allaient le passer en 49.3 normalement. Donc ça a été enclenché cette nuit hein, sur le projet de loi de finances. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Des mecs qui fabriquent des piscines avec des... Ouais, c'était compliqué ce matin. Des mecs qui fabriquent des piscines avec des fonds qui s'élèvent. Tu sais, puis ça te ferme la piscine, ça te fait une terrasse. Des fonds amovibles, voilà. Ok, tu peux faire varier ta profondeur, tout. Je me demande pas pourquoi j'ai scotché là-dessus. Et un truc qui m'a... Donc j'ai laissé passer le reste de la nuit comme ça, tranquillou. Oui, bah vas-y, enfin, si tu mets ton clignotant, déboîte. Tocard. Oh là là. Et puis bah, une petite séance de réveil musculaire qui m'a fait patienter jusqu'à 6h, la douche, le petit déj à 6h30, c'est bon, on peut rouler maintenant. Rigolo. Hein. Et finalement, bah, au lieu de partir, normalement on est censé démarrer nos journées à 8h. Flemme d'attendre jusqu'à 8h parce que bah, de toute façon moi je suis réveillé et personne va m'appeler jusqu'à cette heure là donc j'ai démarré, il était 7h-10. Il me restait j'avais 40 minutes pour atteindre la rocade de Bordeaux. J'ai perdu entre guillemets une bonne demi-heure à 6 ou 7 bornes avant d'arriver à Bordeaux, parce que quand tu arrives par l'autoroute de Toulouse, bah, c'est un peu comme celle de Rennes et de Nantes, ça coince aux entournures. J'ai pu passer Bordeaux facilement une fois que j'étais sur la rocade. Et passer Bordeaux, un coup de buis, mais monumental, qui m'est tombé derrière la tête. Donc j'ai passé le péage de... Alors c'est lequel de ce côté-là? C'est Viersac. Au nord de Bordeaux, je crois que c'est Viersac. Et là, direct, tu mets le clignotant à droite et première sortie, enfin première aire, tu fais hey, « Eh, allez, bonne nuit !» Et ça a fait du bien. Mais là, tu vois, Alors attends, je me suis endormi. Enfin, je me suis posé, il était 8h. J'ai dormi 17 minutes, je crois. Donc, c'est ça, 42. Donc, je me suis posé à 8h25. Je me suis réveillé à 8h42. Et là, je suis reparti depuis un quart d'heure. Grosso modo. Donc, pourquoi tu me fais un calcul en cours, toi? Alors que je suis à 96 bornes de Nantes. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? D'accord. Et là, un petit café. Sur une aire d'autoroute où j'ai l'habitude de m'arrêter, généralement quand je remonte de Bordeaux, parce qu'elle est à peu près à mi-chemin entre Bordeaux et Rennes. Une aire d'autoroute aussi qu'on a fait une fois avec les copains de l'apéro original quand j'habitais encore à Bordeaux, qui venaient dormir à Bordeaux avant qu'on fasse le périple vers Pau de Rennes, et qui s'appelait à l'époque, un petit point histoire, qui s'appelait l'aire de la Canépetière, je crois, et qui aujourd'hui s'appelle l'aire de la Partenaise. On va savoir pourquoi, je sais pas, je m'en fous. Mais voilà, c'est un jour, sois pas surpris, si tu cherches cette aire d'autoroute, la Canépetière, elle n'existe plus, c'est la Partenaise. Voilà. Donc petit café, il me reste 128 minutes. Pourquoi tu me l'affiches en minutes? Je découvre plein de trucs. C'est mis à jour, c'est claqué. 128, donc il me reste 2h08 à enrouler. Avant de retourner à maison. Voilà, ça c'était le petit point tout court. Voilà. Un truc auquel j'étais en train de penser, quand j'ai lancé l'enregistrement, j'ai dit j'espère qu'il va pas encore me bouffer l'intro ou l'outro. Parce que oui, j'ai bien vu, même si j'y suis pas encore revenu, mais certains me l'ont déjà signalé. Je crois que Walter me l'avait signalé, je crois que Biboum l'avait signalé, Poppy aussi me l'avait signalé, que l'intro et l'outro, des fois, ça bouclait sur les fins d'épisode et le début de l'épisode était mâché, on attrapait la discussion en cours de route. Et sur les deux derniers épisodes, normalement, ça a bien marché, ça a bien fonctionné, j'ai envie de dire. La jonction entre la musique d'intro et le démarrage du podcast marche bien. Et je me suis rendu, mais ça a failli me le refaire. Mais je m'en suis rendu compte par hasard, c'est que au moment où j'ai fait ma sur Audacity, au moment où j'ai fait compression normale, d'abord la compression et après la normalisation, j'ai vu que sur la piste de sur la piste parlée, il me rognait toute la fondue en ouverture. Et même un petit peu plus que même un petit peu plus loin que la fondue en ouverture. J'ai pas été voir ce qui se passait sur la fin. Donc si ça se trouve, les derniers épisodes, ils bouclent à la fin aussi et je le sais toujours pas. Mais c'est pas grave. Et donc j'ai pu le récupérer. Donc ça, faut que j'essaye de comprendre pourquoi ça me fait ça. Surtout que quand j'ai fait un CTRL Z, que je suis revenu en arrière et que j'ai recommencé les opérations, ça me l'a pas fait. Donc est-ce que c'est une sélection en cours qui traînait et qui a été tronquée, je sais pas. Voilà. Donc faut juste que je regarde de ce côté-là. Je vais y prêter un petit peu plus d'attention maintenant. Et voilà. Donc ça, tant que je l'avais en tête, excuse-moi, je suis pas revenu sur les épisodes hein, pour les refaire. Tu me connais, je suis pas ce style de personne jusqu'au boutiste qui fait un truc propre. Je sais que c'est là. Je sais que tu sais. J'imagine et je pense que tu m'en veux pas spécialement. Et même si tu m'en veux, bah tant pis, c'est comme ça. Donc voilà. Mais j'ai bien eu les retours et pour le coup, j'y fais attention. J'essaye d'y faire attention. Voilà. Bah il fait beau, dis donc. Ça fait bizarre. Ce qui fait bizarre, c'est de se réveiller un matin à Perpignan et quand il fait 22 degrés à 7h du mat, quoi. Clair et lourd. Mais ça me l'avait déjà fait. Alors, c'était au mois de juillet, donc c'était fin juillet ou fin août, je sais plus. Fin août, hein, plutôt. Ouais, je crois que c'était fin août. C'était avant que je parte en congé. Mais ça fait toujours bizarre. Je suis plus habitué à ces chaleurs. Enfin, c'est, tu sais, ces atmosphères lourdes où ça respire pas. Parce que là, paradoxalement, d'habitude, les rares fois où je suis descendu dans ce coin-là, il y avait toujours un peu de vent. Et généralement, le vent, il arrive toujours du sud-est, là-bas. Et là, il n'y en avait pas. Donc, c'est encore plus irrespirable. Mais là, c'est cool. Ça fait plaisir. C'est bizarre, hein. On est fin septembre, on va arriver début octobre, là, et encore des températures. Enfin là, tu vois, j'ai passé Niort. J'arrive à l'aire de la Vendée, donc normalement je dois être à 80 bornes au sud de Nantes, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est 80 bornes au sud de Nantes, cette aire-là. Et il fait 22. Le ciel est bleu. Bon, il y a bien des traînées nuageuses, mais. Oui, géographie. Oui, c'est un truc. Pardon, excuse-moi, parce que je réfléchis à 18 dans ma tête. Mais c'est un truc qui nous a fait marrer avec Poppy, c'est que généralement quand je rentre du taf, je lui donne les localités où j'ai été le nom des localités ou des communes où j'ai été bosser. Et ça l'a fait un peu marrer, elle m'a dit que globalement, si on pointait sur une carte le nom des localités, les noms sont tellement bizarres, ça pourrait coïncider avec les parcours d'un tueur en série. Alors, je ne tue pas en série, hein. Je tue au hasard, c'est tout. Non, je déconne. Putain, faudra pas sortir ça du contexte. Mais c'est vrai qu'il y a des noms de bled, ça fait peur quand même. Un jour, si j'ai le temps, puis si j'ai envie surtout, j'essaierai de te faire un petit truc comme ça, des bleds où je vais bosser. Il y a de quoi se faire peur. C'est surtout que les coins aussi, des fois, font peur. Voilà. Quoi d'autre? Jusqu'ici, pour me tenir éveillé. C'est aussi pour ça que j'enregistre. Hein. C'est parce que je sens qu'il me reste que 2 heures, que ça, plus t'as envie de rentrer chez toi, plus le temps paraît long. Donc c'est aussi parce que j'ai envie de rompre la monotonie et de te prendre en otage, hein, j'ai envie de dire. Mais surtout que tu sois un appui pour pas que j'ai des petits coups de flemme et que je sois un peu plus vigilant. Donc merci à toi de partager ce moment avec moi. J'écoutais un podcast que Poppy m'a fait découvrir, enfin m'a suggéré. Elle a suggéré, elle sait que je suis très difficile en termes de podcast. Elle aussi, globalement, parce que c'est une réflexion qu'on s'est fait, c'est que sur ce qu'on écoute d'habitude, il n'y a vraiment rien qui nous enchante pour le moment. Et donc elle était, je ne sais plus comment on est arrivé à en parler, elle m'a fait découvrir Tous Parano. Donc Tous Parano, apparemment, ce sont deux journalistes. De ce qu'elle a pu me dire. Moi, je m'en doutais un tout petit peu en ayant écouté un ou deux épisodes. Tous Parano, ça revient globalement sur tous les sujets qui sont... Comment tourner ça correctement pour pas dire n'importe quoi à ce sujet-là et trahir leur volonté de bien faire le truc. Ça revient sur tous les sujets qui sont potentiellement soumis à des théories du complot. Voilà. Je pense que globalement, ça couvre bien le truc. Et c'est deux saisons, je crois. Là, je crois que c'est 32 épisodes pour le moment. À vérifier. Par toi, hein, pas par moi. Tu me connais là-dessus. C'est pas moi qui vais aller vérifier ça. J'en ai écouté une bonne moitié facilement. Donc ça va des Illuminati. Le dernier en date est en deux parties, c'est le 11 septembre. Qu'est-ce que j'ai écouté là? Là en ce moment j'ai celui de l'attentat, enfin l'assassinat de JFK. Qu'est-ce que j'ai eu ce matin? Les ovnis. Hier les Illuminati. Il y a un petit peu, il y a les reptiliens, j'ai peut-être déjà dit, mais il y a un petit peu de tout, va voir. C'est plutôt bien fait selon... Enfin, ça me plaît. Ça me plaît assez parce que je trouve que le déroulé... Déjà, l'interaction entre les deux intervenants est assez agréable. Les voix sont plutôt sympas. Le son est plutôt bien. Oui, je sais, venant de moi, c'est... Ça va peut-être prêter à rigolade, mais voilà. Les transitions sont sympas. L'échange semble naturel, même si je sais que... Enfin, je sens que c'est plus ou moins interprété, mais c'est bien fait. Et surtout, le fond des sujets est assez travaillé, assez riche, plutôt bien documenté et généralement assez bien illustré. J'ai pas été voir dans les notes si on avait accès aux ressources ou s'ils donnaient les ressources qui leur permettaient d'étayer tout ça. Mais ça a l'air sérieux. Moi, ce qui me plaît, c'est la manière dont c'est traité. On n'hésite pas trop à... Bah, clairement, on te dit que ça va débattre de théorie du complot. Mais on va prendre tous les points les plus chauds qui tournent autour d'une théorie. On va les mettre en lumière et on va essayer de les analyser et on va essayer toujours de les débunker. Alors, pas par leur analyse propre, mais par les analyses annexes qui ont été faites autour de ces sujets-là, par des tiers. En gros, c'est une synthèse d'une théorie du complot. On ne doit pas être loin de la vérité. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc, moi, je ne suis pas adepte de tout ça, hein. Moi, c'est vraiment l'ambiance générale du podcast, la manière dont il est fait, qui me plaît. Ça demande des fois une certaine attention. Et d'autres fois, on peut juste l'écouter d'une oreille et ça passe tout aussi bien. Je dis ça parce que Poppy m'avait parlé... Ah oui, voilà. Poppy me l'avait présenté sur le principe d'un épisode sur le grand remplacement. Que j'ai écouté hier sur la rocade de Toulouse, enfin que j'ai démarré sur la rocade de Toulouse et au bout d'un quart d'heure, j'ai fait putain, il y a des trucs que je comprends pas quand même. Donc je suis revenu et cet épisode là, même en essayant de me concentrer un peu, c'est peut-être pour moi le moins abouti de tous, mais peut-être que j'étais pas dispo mentalement ou que j'étais trop fatigué à ce moment là pour bien l'appréhender. Bizarrement, celui sur le Covid-19 que j'ai écouté dans la foulée et qui était en fin de journée, est passé beaucoup mieux. Donc peut-être que des fois, il y a des des inégalités dans la qualité du podcast, mais ça, c'est propre à chacun. Donc, tu te feras une idée. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là. Mais bref. Voilà. Il me semblait que j'avais un autre truc à dire, mais je sais plus qu'est-ce que c'est. Ça me reviendra, hein, ou pas. Oui, comme d'habitude. Oui, on va pouvoir faire un bingo aussi, si vous voulez. Pardon, je vais... voilà. J'ai. Oui, on va pouvoir faire un bingo aussi. Alors, il paraît que j'utilise des expressions qu'il n'y a que moi que je connais. Ouais, que je cause bien la France aussi, des fois. Mais... Donc le bingo des expressions, ça, pour le coup, ça va être compliqué parce qu'apparemment, ça change à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Le fameux « qu'est-ce que je disais pour en arriver là » ou « qu'est-ce que je disais avant ?» Voilà. Donc si tu as des idées de bingo, bah vas-y, hein, n'hésite pas, ne me les soumets pas. Je n'en tiendrai pas compte. Bah non, parce que sinon, ça voudrait dire que je forme mon discours en fonction de ce que tu veux entendre ou de ce à quoi tu t'attends. Et bah, tu sais bien que c'est pas l'essence de ce podcast. Voilà, merci pour tes retours sur les... Ah, j'ai un truc dans la gorge. Et j'ai rien à boire. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai rien à boire. Merci pour tes retours sur les derniers épisodes. Même si je ne les demandais pas spécialement, mais ça fait toujours plaisir de savoir que il y a des gens qui prennent plaisir à écouter ça. Très bien, c'est cool. Merci à vous, j'espère que ça durera encore longtemps, ou je sais pas. Je sais pas si j'espère que ça durera encore longtemps. J'en suis à me dire que j'attends vraiment pas grand chose de tout ça, si ce n'est que bah voilà, moi ça me permet d'évacuer des trucs et de plus les avoir en tête. Le truc global, tu vois, c'est. Ouais, voilà, ça c'est un truc, par exemple, où je me rends compte que ça me sert à évacuer. Mais non, pas 90, putain, on est sur l'autoroute. Globalement, quand Poppy me voit rentrer, ou quand elle voit que je suis parti et qu'il n'y a plus le zoom, dans son rangement, sur la commode, non, c'est même pas une commode, dans son rangement. Et qu'avant qu'elle ait pu écouter l'épisode, puisqu'il n'est pas encore sorti, quand je rentre, elle me demande, mais ça parle de quoi dans les grandes lignes, en fait, je me souviens pas. Des fois, je suis incapable de lui dire exactement, même si ça dure 25 minutes ou une demi-heure, je suis incapable de retranscrire ou de revenir sur ce que j'ai enregistré parce que ça a cet effet sur moi d'ouvrir une petite soupape et de faire partir le truc que j'avais dans la tête et de ne pas avoir à y revenir. Donc voilà, je pense que c'est à ça que ça sert. Je suis pas vraiment dans la... Et c'est pas une opposition, mais je suis pas vraiment dans la lignée de... Tu vois, de Hirslow ou de Kenton, pour les exemples les plus récents que j'ai en tête. Quoique, je sais pas. Mais Hirslow est plus dans la présentation de certains trucs. Il fait un peu de React des fois. Et ok, ça c'est cool parce que c'est le Hirslow que j'aime. C'est le Hirslow qui est vivant, qui est, tu vois, au même titre de Kenton. C'est voilà, tu sens que des fois c'est viscéral et en fond c'est ce qu'on est tous. Sauf que on a des codes des fois pour pas sortir de nos gonds et pas mettre en lumière tout ce qu'on est réellement, tout ce qu'on ressent réellement, ne serait-ce que pour nos entourages ou respect par les autres, pour pas leur infliger non plus notre gestion de nos émotions. Mais voilà, ça pour moi c'est des podcasts qui sont réellement naturels, réellement originaux. Pas de formatage. Je dis pas que c'est pas bien de formater. Chacun fait son truc. Je te dis que moi, dans mon livre à moi, c'est ce qui me parle le plus. J'ai vu que David avait ressorti. Enfin, moi, c'est ressorti. J'ai les 6 épisodes qui sont ressortis sur son podcast. Excuse-moi, David, si j'écorche le nom. Ton autre chemin. Quelque chose comme ça. Je sais que c'est autre chemin, mais je ne sais plus si c'est ton autre chemin ou un autre chemin. Pardon. C'est les épisodes que. Les premiers, je les ai écoutés hein, quand ils sont sortis. Et là, je crois que. Il y en a 6, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et il me semble que. Il y en a 4 nouveaux, puisque je crois que c'est ressorti depuis l'épisode 1. Après, peut-être mise à jour de la plateforme Vaudio, peut-être une volonté de David de réactualiser les flux, justement, pour que tout ressorte. Je sais pas. Moi, je sais que j'aime beaucoup écouter ça. Parce que c'est de l'échange naturel, normalement. Enfin, je dis normalement, mais je me mets à la place des gens qui parlent et je sais pas s'ils sont totalement relâchés, s'ils sont totalement libérés sur ce qu'ils peuvent dire ou ne peuvent pas dire, même s'il n'y a pas de volonté de jugement. Ça, de la part de David, j'en suis certain. Mais les gens qui livrent leur... leurs paroles, je peux pas être dans leur tête. Je suis pas dans celle de David non plus, soyons honnêtes. Mais je connais un peu David et je pense que tu peux enlever tout de suite toute forme de manichéisme de sa part, de ce point de vue-là. Donc voilà, ça c'est le podcast tel que je l'aime, c'est le podcast naturel. Roule avec moi cette vocation d'être naturel. C'est pour ça qu'il y a des blancs, c'est pour ça qu'il y a des moments de réflexion, il y a des interrogations. Ça sert à ça, je pense, de communiquer, d'essayer d'échanger. Même si je suis pas le plus grand communicant et celui avec qui tu échangeras le plus, je pense, par médias interposés, je préfère toujours échanger. En face à face, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus sain selon moi, parce que tu mêles aussi du non-verbal, et le non-verbal dit pas mal de choses de ce que tu ressens au moment où tu livres. Excuse-moi, j'ai eu un blanc parce que je regardais les patrouilleurs de l'autre côté. Enfin, je me demandais pourquoi ils étaient assis sur une rambarde alors qu'il n'y avait rien à faire. Je disais quoi, moi? Oui, le non-verbal dit beaucoup de toi au moment où tu t'exprimes, et ça donne quelques indices. Donc voilà, bah écoute, je sais pas combien de temps, qu'est-ce que ça fait, 36 minutes, on rajoute là-dessus une 30, ça va nous faire un petit 40 minutes, je pense que c'est pas mal. Non, mais je regardais où est-ce que j'en étais de la route et je vois qu'il est toujours en train de chercher quelque chose, mais je sais pas quoi, sur mon appli GPS. Écoute, on va laisser faire. C'est pas comme si je connaissais pas la route. C'est juste que j'aimerais savoir si la rocade est de Nantes est toujours aussi blindée, et savoir si je passe par l'ouest ou si je tente l'est quand même. Sachant que grosso modo, il n'y a pas un gros delta et que ça m'empêchera pas de rentrer à la maison. J'ai Waze uniquement pour voir le temps de route qui me reste. Tu me diras, depuis le temps que je fais cette route, je devrais le connaître. Mais je sais pas, tu sais, c'est un repère dont j'ai besoin. Qui c'est sur la route? Une pie, d'accord. C'est le genre de repère dont je peux avoir besoin. Tu vois, c'est marrant, hein, comme quoi la dernière fois, je disais que globalement, 25 minutes de Nantes. Globalement, j'ai plus trop de repères sur ces moments-là, et j'ai plus trop besoin d'être arrivé à l'heure pile, machin. Là, tu maîtrises pas. Donc, mais je sais pas. Je sais pas quel est ce besoin de se raccrocher à un phénomène de temps. Est-ce que c'est pour se dire qu'il nous reste tant de temps à passer dans la journée pour pouvoir en profiter? Ça, globalement, c'est plutôt ça pourrait être une optique, parce que j'ai énormément envie de profiter du temps maintenant. Avant, le temps, je le regardais passer, et des fois, pendant ce temps que je regardais passer, je me disais, putain, tout ce temps que j'ai laissé passer comme ça sans rien faire, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Aujourd'hui, je suis plus dans l'optique de dire, ok, il me reste tant de temps, qu'est-ce que je peux en faire? Alors, quand tu es au taf, la question elle est vite trouvée. Quand tu es au taf, qu'est-ce que je peux en faire? Tu taffes. Tu cherches pas, tu réfléchis pas, tu taffes. Mais quand tu as du temps pour toi, qui est une chose que j'ai découvert depuis quelques mois, eh bien, ça stimule ton imagination et moi, ça me pousse à aller chercher au fond de moi de savoir de quoi j'ai envie. Et c'est plutôt sain comme occupation. À partir du moment où tu passes pas ta journée, le reste de ton temps, à te demander ce que tu vas en faire. Il y a un moment, il faut quand même se décider aussi. Puis il y a des fois, tu décides que tu vas rien faire. Mais maintenant, c'est de plus en plus rare. Moi, maintenant, ce que je fais généralement, c'est je me dis, ok, j'ai choisi de vivre dans une ville, je vais aller la découvrir. Peut-être que je l'ai déjà dit, hein, donc excuse-moi pour ça. Mais tu vois, c'est marrant de choisir d'aller vivre dans une ville où globalement, tu n'y es pas 5 jours sur 7. Donc du coup, j'en profite pour découvrir Rennes. Là, généralement, c'est des petites marches d'une dizaine de bornes. À chaque fois, tu prends une direction différente et tu regardes. Tu prends le temps de t'intéresser à l'architecture, à la manière dont est foutue la ville, comment ils ont aménagé ça autour de la Vilaine, autour de l'île. De voir le côté historique de l'aménagement de la ville, tu vois, le Marie-François Mitterrand, qu'est-ce que c'était à l'origine, qu'est-ce que c'est devenu, comment ça va évoluer. Voilà. Peut-être que pour un Rennais ou un Breton, ça paraît futile, mais moi, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose dans cette ville qui m'attirait. Bon, maintenant, j'avais une bonne raison aussi d'y remonter. J'allais dire y remonter. Oui, c'est l'habitude d'aller à Rennes pour pas de Rennes. Et c'était devenu pas un pèlerinage, mais le truc, tu fais hey, « ok, hey, je retourne là-bas et c'est cool ». Mais là, j'avais encore une meilleure raison d'y retourner et d'y rester. Mais j'ai toujours été attiré par cette ville, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un truc que je ne sais pas expliquer. Je m'y suis toujours senti bien. Même le peu de temps où j'y séjournais, hein, c'était max 2, 3, voire peut-être 4 jours à Podren. C'était quoi, vendredi, samedi, dimanche et le lundi. Ouais, globalement, 3 jours pleins, parce que tu comptes le vendredi matin pour monter à l'époque et lundi après-midi pour redescendre. Mais je me suis toujours senti bien. Et je m'y sens, mais... comme un poisson dans l'eau. Ça tombe bien avec l'île et Vilaine. Je suis plutôt servi. Ouais, on s'est fait un copain. On a un copain ragondin qui est alors près du parc Saint-Cyr, qu'on appelle nous aussi le parc Ouest-Hurlant, entre nous. Parce que c'est là qu'a lieu le festival Ouest-Hurlant. On a un ragondin là qui est toujours fourré sous le pont. Et qui est toujours collé avec une poule d'eau. Voilà. Donc, globalement, bah, à chaque fois qu'on passe, on le voit, on lui fait coucou. Bon, il répond jamais, c'est ça qui est chiant. Tu vois, il est à peu près aussi renfermé que moi. Non. Je suis pas si renfermé que ça. Je le suis sûrement plus. Mais bref, je digresse. On va se laisser là, hein, c'est pas mal déjà. Puis voilà. Prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes, prends surtout soin de ceux que tu aimes et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Let's go.